7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Comme chaque vendredi, nous parlons d'éducation, ou plutôt aujourd'hui, on s'intéresse au sans-éducation. Il ne faut pas être myope pour constater que, certes, dans les capitales, presque tous les enfants fréquentent les bancs, mais qui sont les 264 millions d'enfants de 6 à 17 ans, toujours exclus de l'école dans le monde, 61 millions en âge d'école primaire, plus de la moitié habitent en Afrique, souvent dans des villages reculés, avec un visage de petite fille, ou bien sont handicapés, ou encore sont déplacés pour cause de conflits armés ou plus banalement ne peuvent plus payer les frais scolaires. Les objectifs du développement durable seront-ils atteints d'ici 2030 pour l'éducation, pour la scolarisation universelle? Les systèmes éducatifs sont-ils responsables de ces destins brisés? Qu'en est-il aussi de l'aide publique au développement? Est-elle suffisante pour l'éducation de tous, notamment l'aide publique de la France? Vous avez la parole, les voisins. Parlez-nous des exclus de l'école près de chez vous. Appelez-nous au 33 1 95 22 71 71 et bien sûr vos messages sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Dans le studio de RFI, Nihan Kosselecsi de l'UNESCO, bonjour.
Bonjour.
Vous représentez le rapport mondial du suivi de l'éducation 2017-2018. C'est vraiment le GPS de l'école. Où en est-on? Où va-t-on? En espérant qu'on n'aille pas dans le mur, si possible. On va faire le point avec vous. Charles-Emmanuel Ballanger, directeur de l'ONG Aide et Action, bonjour.
Bonjour.
Aide et Action, une ONG spécialiste de l'éducation.
Oui, nous agissons depuis plus de 35 ans pour une éducation de qualité dans le monde, pour tous ceux qui en sont exclus, que cette exclusion soit d'ordre économique, parce que tout simplement pour des raisons de pauvreté, ou que cette exclusion soit d'ordre social ou culturel, parce qu'on est une minorité ethnique, parce qu'on souffre d'un handicap, ou malheureusement, plus simplement, parce qu'on est une femme ou une fille.
Vous êtes présent dans 19 pays, la moitié en Afrique?
Exactement, nous sommes présents dans 10 pays d'Afrique subsaharienne, sur la bande sahélienne et sur la côte.
Léa Rambaud, porte-parole de la coalition éducation, bonjour.
Bonjour.
Il y a des coalitions comme ça sur tous les grands thèmes du développement, l'eau, l'accès à l'électricité et l'éducation. Donc vous regroupez en gros toutes les ONG sur le sujet qui se mobilisent pour que l'école dans les pays pauvres soit enfin financée à sa juste mesure par la France. Vous faites pression sur la France.
Oui, tout à fait. Nous regroupons les ONG et les syndicats également. Et nous faisons pression sur la France pour qu'elle renforce son aide à l'éducation dans les pays en développement. C'est un grand chantier de nos travaux.
Vous faites bien de le dire, un grand chantier. Beaucoup moins d'argent proportionnellement pour l'éducation par rapport à la santé, alors que l'éducation est tout aussi indispensable au développement des pays. On entendra aussi notre correspondante à Istanbul, Camille Lafrance, où les enfants réfugiés syriens en Turquie sont privés d'école et se désespèrent. Quelques messages d'auditeurs postés sur notre fil Facebook. Évidemment, vous pouvez réagir. Janvier poste de N'Djamena au Tchad. Il nous dit qu'il y a une catégorie qu'on appelle les enfants bouviers qui sont privés d'école. Ils n'ont d'autre activité que d'accompagner des troupeaux au pâturage. L'école ne fait rien pour eux en matière d'école. Moi-même, je n'ai pas été à l'école avant mes 10 ans. Et après le décès de mon père, je suis allée vivre chez mon grand-père qui considérait que m'envoyer à l'école était inutile. Il trouvait plus utile de me faire travailler dans les champs. Bravo pour ce message en tout cas, Janvier. Sunda et N'Djamena aussi. Moi personnellement, je ne peux pas mettre mon Benjamin à l'école par manque de moyens. Et pourtant, je connais l'importance de l'école. L'État a négligé l'école publique. Les profs n'ont par exemple aucun soutien de l'État. Ibrahima, à Conakry, chez moi en Guinée, beaucoup d'enfants sont privés d'école, plus particulièrement les filles. Moi, j'ai eu beaucoup de chance que mes parents me mettent à l'école. C'est pas facile pour eux, surtout qu'ils ont eu beaucoup d'enfants. L'école est considérée comme moins utile qu'un apprentissage. On voit bien aussi une image parfois un peu défaillante de l'école en termes d'utilité, hein, Nihan?
Oui, c'est ça. En fait, le problème, c'est qu'après 20 ans presque d'engagements internationaux et nationaux, certes, on a fait des progrès, mais comme vous venez de lire dans les messages, on arrive à une sorte de désespoir parce qu'on n'arrive pas à atteindre les populations les plus défavorisées. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait maintenant, il faut une reconsidération de l'école et de l'éducation pour que les parents, eux, considèrent l'école comme utile pour leurs enfants, pour les filles. Et aussi que l'école soit un endroit qui puisse accueillir les enfants qui souffrent d'un handicap ou qui puisse accueillir les enfants dont la langue maternelle n'est pas la langue d'instruction. Mmh. Parce qu'on voit en Afrique...
Ça fait beaucoup de monde, hein, tout ça.
Oui, ça fait beaucoup de monde, mais ça fait aussi la population qu'on a du mal maintenant à atteindre. Et en Afrique, surtout, il y a un énorme problème de langue d'apprentissage et on montre dans notre rapport, justement, que si les enfants... quitte l'école. Si les enfants n'arrivent pas à fréquenter l'école, des fois l'école n'arrive pas à répondre aux besoins d'apprentissage de ces enfants.
Alors justement, il y a un chiffre qui est incroyable. 90% des élèves à l'école primaire en Afrique subsaharienne ne maîtrisent ni l'écriture, ni la lecture, ni les bases de calcul. On se dit à quoi ça sert d'investir. Il faut tout revoir. Hein. Boubacar est à Conakry et nous dit en Guinée, il y a une grève des enseignants qui paralyse le système éducatif. Les écoles privées de cours manifestent leur mécontentement dans les rues. Cette situation prouve que les moyens alloués à l'éducation sont loin de combler les besoins. Pierre, à Kinshasa, met le doigt où ça fait mal aussi. Le défi actuel n'est pas nécessairement de priver ou d'être privé d'école. La vraie problématique se situe aussi au niveau de la qualité de l'instruction. Voilà, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Racontez-nous la réalité de l'école telle que vous la percevez près de chez vous et bien sûr, vous dialoguez avec nos invités. On donne la parole à Diderot qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun au 33 1 84 22 71 71. Bonjour, soyez le bienvenu.
Merci, bonjour à tous les voisins, bonjour aux invités.
Vous souhaitez pointer du doigt la responsabilité de votre pays?
Oui, je pense que le gouvernement camerounais n'investit pas suffisamment dans l'enseignement et dans l'éducation, et c'est pour trois raisons. La première raison, c'est que on préfère investir dans l'armée le pays qu'éduquer les enfants. Donc du coup,
on préfère investir dans... Attendez, la ligne est mauvaise, Diderot. Je suis désolée de vous reprendre. Le Cameroun préfère investir dans quoi, avez-vous dit?
Dans l'armée.
D'accord, dans la défense.
Oui, dans la défense, effectivement. Donc, beaucoup d'enfants n'ont pas affaire à l'école parce que l'école a été politisée. On crée des établissements scolaires sur des papiers, mais ils sont jamais matérialisés dans la plupart des cas. La seconde raison, c'est que beaucoup d'établissements scolaires n'ont pas le paquet minimum pour fonctionner. Du coup, les enfants ne sont pas dans de bonnes conditions. Moi, par exemple, j'enseigne dans un établissement qui a été créé depuis 2010 et qui n'a jamais reçu le moindre sou de l'État comme fonctionnement. Donc, c'est très compliqué.
Vous enseignez à Yaoundé, hein, Diderot?
Non, je ne suis pas à Yaoundé, je suis à
Je suis désolée, Diderot, la ligne est catastrophique. J'espère que nos autres auditeurs, on va avoir une meilleure ligne téléphonique. Vous avez dit en tout cas au standard que... Alors, vous avez bien pointé le défaut d'investissement là-dessus. Yann, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le défaut d'investissement des États, notamment pour le Cameroun, par exemple, par rapport au budget de l'éducation?
En fait, nous, on dit toujours qu'il faut allouer plus d'argent à l'éducation, mais je pense que c'est pas juste une question de dépenser plus dans l'éducation, mais comment on dépense l'argent.
Ce que recommande l'UNESCO, c'est qu'un État, pour que son système éducatif fonctionne correctement, il doit dépenser au moins 15% de son
budget total
global
public
pour l'école, pour l'éducation.
Pour l'éducation, ça c'est le minimum qu'on recommande. Et on voit que dans certains pays, on atteint cette limite. Mais après, comment on dépense l'argent? Et est-ce que l'argent aboutit vraiment aux écoles? C'est ça le problème. C'est-à-dire, on voit dans plusieurs cas que les manuels scolaires, par exemple, n'arrivent pas aux écoles. Et qui est responsable de ça?
Diderot a dit, alors je résume ses propos qu'il a donnés au standard parce que la ligne téléphonique est trop mauvaise, mais il a parlé de détournement de l'argent, de systèmes corrompus et surtout d'enseignants affectés dans les zones enclavées qui n'y vont pas en fait. Donc forcément là aussi, dès qu'on sort des grandes villes, il y a un gros problème.
Oui, évidemment, dès qu'on sort des grandes villes, les enseignants qui ont été formés dans ces grandes villes ne souhaitent pas aller aux confins des pays, dans des zones souvent où la langue n'est pas la leur. la langue des enfants et des communautés locales n'est pas la leur, dans des conditions, Diderot le soulignait, où les écoles sont dans des états déplorables. 80% des écoles en Afrique subsaharienne n'ont pas l'électricité, 25% d'entre elles n'ont pas d'accès à l'eau potable, ni de latrine. Donc un enseignant qui était dans une grande ville ou dans une capitale, évidemment, n'a pas envie d'aller dans ces conditions travailler.
Nous sommes en ligne avec Bouna qui nous appelle de Nouakchott. Bouna, soyez le bienvenu. Vous avez créé une école privée à Nouakchott il y a une dizaine d'années, en Mauritanie.
Exactement, c'est ça. Disons que ça n'a rien de particulier. Ici, toutes les écoles sont privées parce que l'école publique a vraiment laissé tomber les enfants.
Attendez, vous ne pouvez pas dire toutes les écoles sont privées en Mauritanie. Non, ça, c'est pas vrai.
Non, pas du tout.
Vous voulez dire toutes les écoles qui enseignent correctement?
Les écoles publiques n'accueillent que les enfants dont les parents n'ont pas les moyens d'envoyer les enfants à l'école privée.
D'accord.
Donc, je ne veux même pas parler des efforts qu'aurait dû faire le gouvernement pour les enfants. Mais moi, je note quand même une prise en charge des parents. Je vois des femmes qui font tout pour payer les études de leurs enfants. Et même avec ça, c'est difficile. Parfois, je suis obligé de renvoyer des heures à la fin du mois parce qu'ils n'ont pas payé. Et je suis très partagé. Parfois, compromettre l'avenir d'un enfant pour ça, c'est difficile. Ça me fend le cœur. Il y a des choses qui ne sont pas du tout acceptables. Les enfants, j'ai par exemple un enfant jusqu'au 15, hier il n'a pas encore payé. Et c'est un bon élève. Oui. Depuis plusieurs années, il est là jusqu'au collège.
Et on est le 15 du mois. Alors évidemment, ces familles, si elles ne peuvent pas payer les frais de scolarité de votre école privée, pourraient les mettre à l'école publique. C'est forcément moins cher.
Ils font quoi? Mais les parents savent que ce n'est pas à l'école publique. Et plutôt que de les envoyer à l'école publique parfois, il essaie de leur trouver un boulot, il les envoie faire la pêche ou bien vendre de l'eau.
Vous avez dit au Standard, Bouna, que le gouvernement est totalement déconnecté par rapport à l'ampleur de la tâche pour l'amélioration de l'éducation en Mauritanie.
Parce que quand on investit dans l'enseignement, il faut investir beaucoup d'argent maintenant pour en voir le résultat que 10 ou 15 ans plus tard. Et ça, ce n'est pas politique. Les politiciens, ils savent que quand ils investissent maintenant, quand ils font les efforts, ce n'est pas un argument électoral.
Un choix politique, vous avez mis les bons mots. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Vous continuez de nous appeler, les voisins et les voisines. 33 1 84 22 71 71. Alors, Nian Kosselecci de l'UNESCO, dites-nous, à l'heure actuelle, à la lumière des témoignages qu'on a entendus, on voit bien que les auditeurs ont très bien compris, même ceux qui sont dans l'élite de leur pays, à quel point les progrès pour l'éducation étaient devenus maintenant une urgence sur le continent africain. Quelles sont les principales conclusions du rapport de l'UNESCO sur le suivi de l'éducation par rapport aux objectifs du développement durable fixés par les Nations Unies? Est-ce qu'on en est très loin?
Là, on en est loin. C'est-à-dire qu'on a une image assez noire, même si il faut souligner qu'on a réussi à mettre de plus en plus d'enfants à l'école. Mais ce qu'on souligne, c'est que dans le nouvel agenda de développement durable, il ne suffit pas juste de mettre des enfants à l'école, il faut qu'ils assurent un certain... Et comme vous avez très bien dit, 9 enfants sur 10 en Afrique subsaharienne n'apprennent pas les bases en écriture et dans les mathématiques. Et l'image, en fait, le message clé du rapport, c'est que qui est responsable de cette... Et là, on se dit, on est tous responsables. Tous, c'est qui? C'est bien sûr le gouvernement et le premier responsable pour fournir une bonne éducation de qualité à tous les enfants. Mais en même temps, il y a la société civile qui doit s'assurer que le gouvernement actuellement accomplisse cette mission. Il y a les parents qui sont responsables, les enseignants, les écoles, les médias, parce qu'on sait que les médias jouent un rôle énorme. Et si on en parle de l'éducation aujourd'hui, c'est la preuve. Et les organisations internationales et les bailleurs de fonds, parce qu'on sait que les bailleurs de fonds n'ont pas non plus accompli leurs engagements en termes d'aide à l'éducation et en termes général d'aide au développement.
Est-ce qu'un pays tout de même qui dépense plus pour l'éducation par rapport à un autre a de meilleurs résultats? Qui sont les bons élèves à l'heure actuelle sur le continent africain, par exemple? Des pays qui ont réellement progressé?
Il y a la Tanzanie qui a progressé, on peut dire. Et ça, c'est pas juste une question de dépenser plus d'argent, c'est aussi de s'assurer que cet argent est dépensé pour les populations qui en ont le plus besoin et aussi pour les secteurs de l'éducation qui en ont le plus besoin et qui ont le plus... On sait que dans certains pays africains, par exemple, on dépense plus dans l'enseignement supérieur que dans la petite enfance. Alors qu'on sait, la petite enfance, c'est ce qui ramène le plus aux enfants. C'est
dans la plupart des pays africains, vous montrez des schémas qui sont complètement hallucinants. Où effectivement, en Côte d'Ivoire, la part de dépenses pour l'enseignement supérieur est, je ne sais pas, 10 fois celle pour l'enseignement primaire. C'est complètement disproportionné.
Oui, mais imaginez pas pour la petite enfance.
Moins de 10% d'une classe d'âge fréquente l'université.
Exactement. Du coup, on contribue en fait à vulnérabiliser, à marginaliser certaines populations. Parce que qui va à l'enseignement supérieur? C'est bien sûr les populations les plus favorisées qui arrivent, pas seulement dans l'Afrique subsaharienne, mais dans tous les pays du monde. Et là où on peut rattraper les enfants les plus marginalisés, c'est à la petite enfance, et on n'investit pas dans la petite enfance, et au niveau national, et au niveau international.
Mais on n'investit pas dans la petite enfance, parce que finalement, chacun se dit, bon, je me débrouille comme je peux, je mets de l'argent pour mettre mon enfant dans l'école privée, et puis le système roule comme ça.
On n'investit pas dans la petite enfance parce que les États investissent déjà près de 80-90% de leur budget pour payer les enseignants. Et donc, c'est rajouter des structures qui vont coûter à l'État. Et donc, il y a un choix qui est fait, très pragmatique, mais complètement aberrant, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, plus on prépare tôt un enfant dans son éveil du fait de la plasticité du cerveau entre 2 et 5 ans, plus on a des chances de réussite dans sa future scolarité. Exemple, aujourd'hui, 80% des pays du monde n'ont pas de structure de petite enfance, d'école maternelle. Alors qu'on voit bien les pays qui ont développé cela, il y a un impact réel sur la réussite aux primaires.
Mais je parlais d'école primaire plus généralement, en fait, hein, l'école de base. Est-ce que finalement, il n'y a pas une forme de désengagement de la société civile qui ne pèse pas suffisamment sur les gouvernements en se disant bah, « chacun sauve qui peut, en fait, on met l'enfant à l'école privée et comme ça, c'est réglé ».
Alors clairement, EDAction, qui est d'ailleurs un membre de la coalition éducation, nous sommes membres du comité de pilotage de la coalition éducation, nous sommes fortement engagés contre la privatisation et la marchandisation de l'école, et nous appuyons beaucoup les États sur des pratiques innovantes que nous avons mises en place sur plusieurs années, en montrant les résultats, et en disant, voilà, ces pratiques sont des pratiques qui fonctionnent, qui permettent d'avoir des résultats. Par exemple, sur l'éducation des filles au Niger, où nous avons travaillé avec les communautés, avec les responsables religieux, pour montrer qu'il était important de scolariser les filles et de retarder l'âge du mariage précoce. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent être travaillées et reprises par l'État, mais qui, souvent faute de moyens, ne le sont pas.
Léa Rambaud de la coalition éducation. Le président Macron a annoncé le mois dernier aux Nations Unies que l'éducation allait être la priorité dans le financement de l'aide au développement. C'était un discours politique assez fort. Est-ce que le vent a enfin tourné favorablement pour l'école dans les pays les plus pauvres?
Alors, chaque année, on publie une analyse détaillée de l'aide de la France à l'éducation dans les pays en développement. Et les constats sont les mêmes. Cette aide ne cible pas les besoins les plus importants. Donc, il y a des chiffres qui sont assez alarmants. L'éducation est le parent pauvre de l'aide au développement. Seulement 15% de l'aide au développement est allouée à l'éducation. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que dans cette aide à l'éducation, 70% est allouée aux bourses et aux dépenses consenties par la France pour l'accueil des étudiants étrangers en France.
Donc on est complètement à côté de la plaque.
Voilà.
Par rapport à un océan de besoins dramatiques sur le continent subsaharien pour l'école primaire.
Ce qui représente 24 fois la part allouée par la France à l'éducation primaire dans son aide au développement.
Enfin, à côté de la plaque ou uniquement dans la diplomatie économique?
Oui, effectivement. Et on peut aussi s'interroger sur la répartition géographique de cette aide, car seul un quart de cette aide est allouée aux pays d'Afrique subsaharienne, ce qui est assez, c'est une aide insuffisante et alarmante quand on connaît l'urgence d'investir dans l'éducation dans cette région.
Une aide au développement qui serait conditionnée par l'investissement des États eux-mêmes, est-ce que ça c'est une bonne vision ou pas pour vous, Charles-Emmanuel Ballanger ?
Oui, c'est une bonne vision. Malheureusement, il n'y a pas de cohérence dans les politiques éducatives et dans les politiques économiques des pays. Je pense au contrat d'aide des endettements développement, où là, il pourrait y avoir des choses qui soient imposées par les bailleurs, notamment le ministère des Affaires étrangères via l'AFD. Mais aujourd'hui, on a des politiques qui sont complètement en incohérence par rapport aux autres.
On va bien sûr en reparler. Vous restez avec nous et les voisins, vous nous appelez au 33 1 84 22 60.
C'est dans la...
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins, par l'éducation, comme chaque vendredi. Où en est-on de l'éducation pour tous? Qui sont aujourd'hui les exclus de l'école? La moitié largement sur le continent subsaharien. On en discute avec vous, Nian Kosselecci. Vous représentez le rapport mondial du suivi de l'éducation, la version 2017-2018, qui n'est guère positive et optimiste de l'UNESCO, et vous êtes vraiment une boussole pour la progression de l'éducation pour tous. Charles-Emmanuel Ballanger de l'ONG Aide et Action, énormément présente aussi sur le continent africain, spécialiste de l'éducation, et Léa Rambeau pour la coalition éducation, la mobilisation de la société civile en France qui veut peser pour davantage d'aide au développement français consacré à l'éducation. Vous nous le disiez en première partie d'émission, 15% de l'aide au développement, de l'aide publique au développement de la France consacrée à l'éducation. Déjà, c'est pas beaucoup. Et dans ces 15%, il y a essentiellement de l'aide aux bourses des étudiants étrangers en France. Très bien, très utile. Mais si on enlève ça, il reste quoi pour l'école en Afrique? Plus rien. Non. Grosso modo,
oui, hein,
voilà. Et ben voilà, c'est clair. Les voisins, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Alors qu'en est-il également des enfants privés d'éducation à cause des conflits armés qui causent des déplacements de populations sans fin? Ces enfants-là n'ont jamais été aussi nombreux. On part pour la Turquie tout de suite. C'est le pays qui accueille le plus de migrants syriens, plus de 3 millions de personnes, sans doute plus si l'on compte les personnes non enregistrées. Ils n'ont pas le statut de réfugiés, mais un statut spécial d'invités temporaires, et parmi eux on a presque 1,5 million d'enfants. Bonjour Camille Lafrance.
Bonjour.
Vous êtes correspondante de RFI à Istanbul. L'éducation de ces enfants est toujours un défi, même si c'est vrai, des efforts ont été faits ces dernières années pour ces réfugiés syriens.
Oui, il y a des chiffres assez parlants. Hein. Depuis cette rentrée, près de 600 000 enfants syriens sont scolarisés en Turquie. C'est 100 000 de plus, par exemple, que l'an dernier, et le double par rapport à 2015. Mais bon, sur 1 million d'enfants en âge d'être éduqués, c'est toujours pas suffisant, bien sûr. Hein. Selon l'UNICEF, 40% des enfants syriens sont encore privés d'école dans le pays. Alors pourtant, la Turquie, c'est un des États qui a fait le plus d'efforts dans ce domaine. Et il y a de nombreuses options pour apprendre, des cursus dans des écoles classiques turques, des écoles professionnalisantes, même des centres d'éducation temporaires avec des cours en arabe. Les Syriens peuvent aussi suivre des cours à distance, bien sûr. Et puis, il y a des applications gratuites pour apprendre le turc. Bref, beaucoup d'efforts. Mais bon, la vie hors de Syrie dure. Hein. Pour la première fois cette année, les enfants syriens sont plus nombreux dans les écoles publiques turques que dans les centres d'éducation temporaire où les cours donc sont donnés en syrien.
Alors évidemment, le barrage de la langue reste l'un des principaux obstacles à l'éducation de ces enfants en Turquie, l'un des seuls voisins de la Syrie dont la population n'est pas arabophone précisément.
Oui, et pour beaucoup de familles, la barrière paraît complètement infranchissable, hein, selon leur degré d'éducation, leurs habitudes, hein, leurs clés d'apprentissage. Apprendre une nouvelle langue, ça peut être un gros défi. Pour d'autres, c'est aussi perçu comme une façon de renoncer à sa propre culture et à la perspective d'un retour au pays. Donc là encore, des initiatives sont prises, hein, pour aider ces familles-là. Il y a des centres d'éducation publique qui délivrent des cours de turc en dehors, donc des cursus classiques. Ils auraient accueilli 5 000 enfants cette année. Des centres sociaux aussi, hein, qui sont financés par des ONG, des donations internationales et qui tentent de jouer un rôle éducatif. Ils dispensent surtout des cours de turc, hein, également. Et puis il y a des écoles, des orphelinats syriens privés. Depuis le début de la guerre, ils sont installés dans différentes villes de manière parfois un peu anarchique. Hein. Parfois ils suivent le programme scolaire syrien, parfois on y apprend juste des chansons du pays, hein, et c'est d'abord peut-être une façon de s'occuper de ses enfants, de les occuper sans vraies ambitions scolaires démesurées. Alors le but des autorités turques, par contre, c'est de faire rentrer ces petits Syriens progressivement dans les écoles turques. Seulement, les classes sont déjà surchargées. Pour cela, il faudrait 28 000 classes supplémentaires, d'après le ministère de l'Éducation.
28 000, c'est énorme. Merci. Je tiens aussi à signaler que l'organisation Human Rights Watch dénonce de son côté des millions de dollars d'aide destinés aux enfants syriens qui ne seraient pas parvenus en Turquie, au Liban et en Jordanie, là où sont précisément réfugiés ces enfants, dans un rapport. Et ces problèmes de manque de transparence auraient privé 50 000 enfants d'éducation dans ces trois pays sur l'année 2016-2017. C'est quand même assez édifiant. Vos réactions, Nian Koselici de l'UNESCO, sur les enfants privés d'école à cause des conflits?
Bon, on en a de plus en plus. En plus, j'entends votre correspondante de mon pays que je connais très bien. Donc, il y a ce qu'on conseille en tant que les organisations internationales, c'est que la plupart de ces enfants, d'une part, ils ne sont pas, contrairement à ce qu'on croit, ils ne sont pas dans les pays développés. Ils ne viennent pas tous en Europe. Ils sont la plupart du temps dans les pays en développement dont les ressources sont déjà très contraintes. Du coup, on leur demande encore plus. Et la plupart de ces enfants aussi ne vivent pas dans les camps. Donc, ils ne sont pas dans les camps, ils sont dans les milieux urbains. Et ils sont la plupart du temps ouverts à toute exploitation. Et ce qu'on conseille, nous, en tant que les organisations internationales, et en tant que le rapport, c'est de les inclure de plus en plus dans les systèmes nationaux et aider les pays à. Et, mais ça, c'est pas.
C'est ça, mais si tant est qu'il n'y ait pas trop de barrières linguistiques.
Et du coup, il faut accompagner les enseignants parce que les enseignants eux-mêmes sont perdus face à une diversité culturelle et linguistique. Et les enfants sont eux-mêmes perdus, ils sont traumatisés, ils sortent de la guerre. Et en termes généraux, le système de ces pays qui sont déjà très contraints, ils n'arrivent pas à accueillir ces enfants qui sont traumatisés et réfugiés.
Charles-Emmanuel Ballanger, sur les enfants privés d'école en conflit.
Oui, on constate de plus en plus de par le monde que cette proportion d'enfants privés d'école augmente, que parallèlement il y a des stratégies d'attaquer les écoles dans les pays en conflit, d'attaquer les écoles. On le voit avec Boko Haram par exemple sur l'Afrique, l'Afrique centrale.
L'Afrique francophone, des instituteurs sont assassinés au Mali, au Niger, au Burkina Faso.
Exactement, c'est des pays sur lesquels nous sommes présents et sur lesquels nous avons de grandes difficultés en termes de sécurité et en termes de poursuite de nos activités parfois, puisque nous sommes parfois contraints, comme sur le Nord Mali, d'arrêter des projets pour la sécurité de nos équipes.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Où en est-on de l'objectif de l'éducation pour tous, notamment sur le continent subsaharien, puisqu'on sait que c'est aussi le continent où les objectifs sont le moins réalistes d'ici 2030. Vous nous appelez, nous prenons vos appels dans quelques minutes, ça sera juste après. Allez, Angélique Kidjo, elle aussi, elle est mobilisée pour l'école sur son continent. Yamuchu, Angélique Hidjo, nous parlons chez 7 milliards de voisins d'éducation comme chaque vendredi. Aujourd'hui, tous ceux qui sont privés d'école, plusieurs dizaines de millions dans le monde aujourd'hui, ça commence à faire énorme. Beaucoup sur le continent subsaharien où l'école, vous nous le disiez, Nihon Kosellecci de l'UNESCO, accuse un retard, stagne dans sa progression d'éducation pour tous. La faute aux États, la faute à l'aide au développement, la faute à une coordination aussi des systèmes éducatifs. Victor Emmanuel nous appelle de Cotonou, au Bénin. Bonjour Victor Emmanuel.
Oui, bonjour.
Vous appelez parce que vous avez dit au Standard que vous travaillez pour un institut de recherche sur l'école.
Exactement, l'Institut de recherche empirique en économie politique. Et en ce moment, on conduit l'évaluation d'un projet d'appui à l'éducation pour les jeunes déscolarisés dans le nord du Bénin. Mmh. Voilà, donc en fait, c'est un projet qui a été conduit de 2010 à 2015. Et là, il y a la deuxième phase qui court de 2016 à 2020. Et en fait, ça consiste à prendre les enfants des départements du Borgo et de la Liborie qui ne sont pas scolarisés ou alors qui ont abandonné leurs études en cours de chemin et de leur offrir une formation bilingue et puis de l'apprentissage aussi. Il s'agit notamment des enfants de 9 à 15 ans.
Et quels sont les résultats d'évaluation pour ces enfants déscolarisés qui reprennent l'école en chemin finalement ?
Oui, alors c'est formidable parce que sur la première phase, les 5 premières années, on a pu former plus de 2000 enfants, parmi lesquels plus de 1200 filles. Et avec l'évaluation qui est en train d'être faite, on a constaté que la première promotion qui avait démarré le cycle secondaire, l'école primaire, a pu obtenir son CEP. Il s'agit d'à peu près 380 enfants qui ont eu leur CEP.
Merci Victor Emmanuel. C'est intéressant ce que vous soulignez parce qu'effectivement, on a quoi à l'heure actuelle 25 millions d'enfants qui ne passent même pas le seuil de l'école primaire, Nihon Kosellecci. C'est quand même énorme. Et puis, en termes d'abandon scolaire, on en est où? Ceux qui vont aller quelques années à l'école primaire, qui ne vont rien y apprendre et qui vont en sortir prématurément.
Exactement.
En pourcentage, c'est
59% en Afrique subsaharienne n'allait pas compléter le premier cycle.
C'est ça, termine même pas.
C'est-à-dire que même si vous les mettez à l'école, on ne peut pas s'assurer que les enfants complètent l'école. Et du coup, a ce chiffre-là.
C'est ça. Alors, il faut imaginer des projets comme ce que nous donnait comme exemple Victor Emmanuel à Cotonou, des projets pour remettre les enfants dans un autre train de l'école, reprendre quelque chose en cours de route.
Oui, exactement, parce que c'est la seule manière de pouvoir atteindre ces populations. Et là, j'ai le bilinguisme, par exemple, l'éducation bilingue, pour pouvoir atteindre, parce qu'on sait que 40% de la population mondiale n'apprend pas dans sa langue maternelle. Et c'est ce qui explique l'abandon et aussi l'échec scolaire. Et du coup, je pense que je serais curieuse de savoir également quel était cet aspect du bilinguisme sur la réussite et l'évaluation du projet. Parce que je pense que ça a dû avoir un impact important pour pouvoir accueillir ces enfants.
C'est ça, réaccueillir les enfants avec d'autres formules scolaires, Charles-Emmanuel Ballanger.
Oui, il faut insister sur l'apprentissage de la langue maternelle. Nous sommes, nous, et des actions très favorables à cet apprentissage de la langue maternelle. Nous avons conduit par le passé un travail important au Sénégal, dans ce que nous avons appelé les écoles communautaires de base, où dès le primaire, les enfants apprenaient dans leur langue maternelle et tout doucement, année après année, augmentaient le taux d'apprentissage dans la langue soit nationale et vers le français. Et à la fin de cette formation, en plus, on leur donnait une formation professionnelle leur permettant d'avoir un petit métier. Et il y a eu une grande, grande réussite. Ce projet a été repris par l'État, par le ministre de l'Éducation de l'époque. Malheureusement, avec les changements de gouvernement, ces projets ont été abandonnés alors qu'ils avaient prouvé toute leur réussite.
Il y a un problème d'évaluation aussi quand on met de l'argent dans des projets, globalement. Savoir si ça marche, quels sont les résultats.
Oui, c'est compliqué parce que l'évaluation, les bailleurs demandent un rapport final, bien souvent, qui est le rapport de la bonne utilisation des fonds. Mais le développement et l'éducation, c'est quelque chose qui prend du temps. Et l'évaluation, ça se fait à 2, 3, 5 ans. Et donc, suivre des cohortes, d'abord, la plupart des ministères de l'Éducation nationale ne sont pas équipés pour suivre les cohortes d'enfants. Donc, ce sont les ONG qui doivent le faire, avec beaucoup de complications, et ce qui peut se faire que sur des petits volumes, et donc, après, avec une extrapolation qui est parfois difficile à les à l'échelle d'un État.
Léa Rambaud, sur l'aide publique au développement d'un pays comme la France, là aussi, il y a parfois une forme d'aveuglement, de désintérêt pour l'évaluation de l'argent qui a été investi, du peu d'argent qui a été investi dans l'éducation.
Oui, et effectivement, pour revenir sur cette question des bourses et des écolages, il n'y a aucune évaluation qui est faite pour savoir quel est l'impact de ces bourses sur justement le développement des pays bénéficiaires de ces montants.
Donc, vous parlez des bourses des étudiants étrangers oui. allouées par la France quand elle accueille des étudiants étrangers voilà. sur son sol.
Sur son sol,
donc, précisément ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école voilà. dans leur pays.
Et nous, on demande vraiment à ce qu'il y ait une analyse de savoir si, parce qu'on questionne la comptabilisation de ces bourses justement dans l'aide publique au développement, et on demande à ce qu'il y ait une analyse des impacts qui soit faite pour qu'on puisse savoir si oui ou non ces bourses contribuent réellement au développement des pays les plus vulnérables.
Allez, nous repartons au standard 33 1 84 22 71 71. Comment faire pour améliorer à la fois la qualité de l'éducation et puis enfin réduire cette poche d'irréductible de ceux qui soit ne mettent jamais les pieds à l'école, soit en sortent prématurément? Nous accueillons Amadou qui nous appelle de Bambé au Sénégal. Bonjour Amadou.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous êtes enseignant dans une école primaire privée, hein, c'est bien cela?
Oui, je suis enseignant informatique à l'école Sainte-Croix de Bambé. Alors vous savez Emmanuel, nous ici à Bambé, l'enseignement c'est une sacralité. C'est comme une religion, c'est-à-dire que si vous n'allez pas à l'école, c'est comme si vous êtes pointé par une chicotte invisible. Et le cas de l'école Sainte-Croix de Bambé est un exemple vraiment patent, parce que c'est un privé catholique.
C'est ça. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir payer les frais d'inscription, on est bien d'accord, hein?
Voilà. Mais c'est-à-dire que, vous savez, David, les frais d'inscription, ça revient à ceux qui travaillent et qui ont des travaux bien, vraiment stables. Mais c'est totalement différent, parce qu'avec l'école Sainte-Croix de Bambé, vraiment l'enseignement est accessible à tout le monde. Si vous êtes un parent un peu démuni quand même, ou bien un peu pauvre, on a développé un système de parrainage. Et on a des parrains internationaux. Par exemple, on peut citer le cas de Info Africa. On a France Parrainage aussi. Mm. Et ce sont des parrains internationaux qui aident les élèves qui ont des parents démunis pour avoir vraiment un enseignement de qualité dans notre école.
Ouais. On ne doute pas de la bonne volonté des écoles privées. Hein. Néanmoins, si tout cela était si efficace, pourquoi on aurait 260 millions d'enfants qui ne peuvent pas fréquenter l'école en âge scolaire, en tout cas jusqu'à 17 ans, Nian Kosselecci? Y a quand même aujourd'hui quelque chose qui est encore plus ou moins un tabou, c'est la dualité entre l'école publique et l'école privée. Ces dernières années, on a cessé de dire que l'école était en train de devenir gratuite, notamment dans des pays africains, gratuite sur le papier. Quelle est la réalité alors que l'école privée ne cesse de se développer? Où est-ce qu'on en est en vrai?
En fait, il y a deux aspects. Donc, il y a déjà l'école privée et l'école publique, comme nous on entend dans les pays développés, qui en fait néglige complètement l'aspect de l'équité. Et tout à l'heure, on parlait de l'évaluation. Et tout ce qui est évaluation doit prendre en compte l'équité. Est-ce que cette ségrégation de l'éducation contribue à l'équité ou contribue à marginaliser les populations? Après, il y a un deuxième aspect qu'on commence à voir dans plusieurs pays africains, notamment au Kenya, à l'Ouganda, qui sont des écoles privées à faible coût. Et qui disent qu'on a vu dans l'Académie Bridge, par exemple, en Ouganda et au Kenya, on dit qu'ils sont à faible coût, mais en fait, le coût réel pour les familles, c'est beaucoup plus qu'ils l'annoncent. Et après, il y a aussi également au Kenya et en Ouganda, ils ont dû fermer certaines écoles privées à faible coût parce qu'ils ne respectaient pas le salaire des enseignants, la formation. Les enseignants qui étaient dans ces écoles, en fait, n'étaient pas formés adéquatement. L'infrastructure n'était pas adéquate. Et du coup, ça ne conformait pas aux régulations. Et encore une fois, là, c'est au gouvernement de s'assurer, parce qu'on ne peut pas dire qu'on va fermer toutes les écoles privées. Ce n'est pas possible, ce n'est pas réaliste. Mais il faut que ces écoles privées soient dans les régulations du gouvernement. Et la plupart des cas, ce secteur privé n'est pas vraiment régulé. Au Nigeria, par exemple, la plupart des écoles, en fait, n'étaient même pas connue par le gouvernement, alors que 50% des enfants fréquentaient ces écoles privées à faible coût.
Donc l'enseignement privé n'est pas forcément de meilleure qualité par rapport à certaines écoles publiques qui sont bien gérées?
Non, pas du tout.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, on accueille Abdoulmadjid de Dakar, bonjour.
Bonjour madame.
Vous voulez nous parler de l'enseignement secondaire, parce que vous êtes prof d'espagnol dans un lycée dans la banlieue de Dakar, où ça exactement, dans quelle banlieue?
Dans la banlieue près de Rufiat.
Oui. Oui, c'est la grande, grande banlieue, oui. En effet.
Oui, la grande banlieue,
oui. Ouais. Vous souhaitez souligner le manque de motivation des profs, mais aussi un problème avec les garçons.
Non, pas manque de motivation, pas seulement des professeurs, mais aussi des élèves, plus particulièrement les garçons.
Oui.
Allô.
Oui, mais on vous écoute, vous êtes en direct, Abdoul Majid.
Plus particulièrement des garçons, pourquoi ? Parce que depuis les années 90, on a développé des politiques éducatives vraiment favorables aux jeunes filles, et ce, au grand détriment des garçons. Finalement, bon, les garçons ne se sentent plus intéressés. Vous comprenez ? Mmh. Alors maintenant, quand ils entrent dans les classes, bon, ils se mettent totalement au fond, et en fin d'année aussi, ils ne se soucient même pas bon, de leur présence, de ce qui a été à l'avant de leur présence ouais. à l'école.
Et de temps en temps, de temps en temps, il fait l'école buissonnière et il va avoir des combats, de la lutte, c'est ça?
Oui, hein des fois, il se sent avec un absentéisme caractérisé, des retards répétitifs. On convoque les parents des fois, ils risquent même de s'éclipser dans la nature sans plus revenir. Ouais.
Sacré garçon, merci Abdoul Majid. Alors c'est vrai que le Sénégal, c'est quand même un cas à part, qui a fait beaucoup de progrès sur la création d'établissements d'enseignement secondaire, où je ne sais pas où est-ce qu'on en est statistiquement. Il n'y a pas plus de filles ou presque autant de filles, non, dans les lycées au Sénégal?
Il y en a, mais quand même on constate toujours un désavantage des filles. Un léger. Mais c'est très intéressant qu'on parle de ces histoires de garçons parce que de plus en plus, dans le monde entier, surtout en Amérique latine, dans les Caraïbes, on constate un désengagement des garçons. Les garçons, en fait, on a des disparités énormes au niveau du secondaire.
Y compris au Lesotho sur le continent africain, d'ailleurs.
Exactement. On commence à constater ça aussi en Afrique. C'est-à-dire qu'après la pédagogie, ça, peut-être qu'en classe, il faut se pencher plus sur cette question-là. Peut-être qu'en classe, les enseignants ne se comportent pas de la même manière avec les garçons qu'avec les filles.
Il faut quand même bien remettre les pendules à l'heure. À l'heure actuelle, quand même, le vrai problème, c'est les inégalités pour les filles.
Oui.
On est d'accord.
On est d'accord sur ça. Mais les raisons, en fait, il faut se pencher sur les raisons de ces désengagements des deux sexes.
Statistiquement, sur le continent africain, les filles, où est-ce qu'elles en sont par rapport aux garçons ?
J'ai pas les chiffres en tête, mais bon, dans certains pays, on sait que par exemple, il y a 60% des filles ne vont pas à l'école. Je pense à la Guinée-Conakry, que je connais bien, où on a 80% des filles du primaire qui ne passent pas, qui arrêtent avant la fin du cycle primaire et donc qui vont pas au secondaire.
Ouais, et globalement dans le monde, 2/3 des analphabètes sont des femmes ou des filles. Alors justement, on arrive bientôt au terme de cette émission. Lundi, à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'enfant, 7 milliards de voisins va diffuser un grand reportage au Niger, j'attire votre attention, les voisins. Le Niger, c'est le pays au monde où se pratique le plus de mariages précoces. Un quart des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans, trois quarts avant d'atteindre 18 ans. Ces chiffres, d'ailleurs, ont assez peu évolué ces 20 dernières années, dans un pays où 8 femmes sur 10 ne savent ni lire ni écrire. Et les mariages précoces brisent les scolarités, mais c'est aussi le manque d'éducation qui est aussi la cause des mariages précoces. Donc ça s'appelle le serpent qui se mord la queue. Alors comment lutter contre les mariages précoces alors que le code civil nigérien fixe l'âge légal du mariage à 15 ans pour les filles ? Ne manquez pas le reportage de Charlie Dupio qui a enquêté à Tessawa dans le sud du pays, à Niamey, la capitale. Écoutez tout de suite un extrait.
Je m'appelle Chafatou. Je viens de la région de Filingué. J'ai 16 ans. Je suis allée à l'école jusqu'en classe de CM2. Je me suis présentée à l'examen d'entrée en 6e. Mais je ne l'ai pas réussi. J'avais des difficultés en mathématiques. Et mes parents ne pouvaient pas me payer de répétiteur, qui aurait pu me donner des cours particuliers le soir. Alors j'ai échoué à l'examen d'entrée au collège. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de venir à Niamey. Je suis d'abord allée vivre chez une tante, avant de tomber sur une ONG qui m'a permis d'intégrer une école de couture. J'ai fini ma première année dans cette école, et là j'entame la deuxième année de formation. Parce que je sais qu'un mariage forcé et précoce n'a rien de bon pour une jeune fille. Pour les éviter, certaines partent en ville et se prostituent. D'autres, après le mariage, refusent de manger. Il y en a aussi d'autres qui se suicident parce qu'elles ne veulent pas du mariage. Moi, je voulais éviter tout ça.
Voilà, comment le mariage précoce est aussi un des problèmes pour la scolarisation des filles, ou en tout cas terminer le cycle primaire, voire continuer quand elles le désirent, Charles-Emmanuel de Ballanger.
Oui, complètement, et l'exemple est intéressant, puisque nous conduisons un projet au Niger, un appui à la scolarisation des filles pour le secondaire, et nous avons travaillé sur une zone, sur la zone sud du Niger, sur Zinder par exemple, et sur Maradi, où nous avons travaillé avec 458 jeunes filles pour les maintenir dans le circuit scolaire et surtout leur permettre d'accéder au secondaire. Travailler avec ces filles, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler avec les communautés, l'ensemble de la communauté, les parents, bien sûr, bien évidemment, mais aussi le chef du village, les responsables religieux, parce que c'est au travers de la prise de conscience et d'un plaidoyer auprès de l'ensemble de ces responsables que la vision culturelle va changer.
Et valoriser la réussite scolaire
et qu'on va, exactement,
qui,
et qu'on
qui réussissent plus... bien quand elles sont aidées. On arrive au terme de cette émission. En février 2018, vous le savez, il y a un grand rendez-vous, c'est la campagne du financement de l'éducation qui se déroulera à Dakar en présence de Macky Sall, le président sénégalais, en présence du président français Emmanuel Macron. Est-ce que c'est une mobilisation un peu nouvelle ou pas pour vous, Charles-Emmanuel Ballanger ?
Bah écoutez, il y a des beaux effets d'annonce du président Emmanuel Macron, mais lorsqu'on regarde les chiffres sur l'aide publique au développement, par exemple, on nous annonce d'arriver à l'objectif de 0,55%, qui n'est même pas l'objectif qui a été retenu, puisque c'était 0,7% du revenu national brut. Donc on n'est même pas encore à cet objectif-là. Et lorsqu'on regarde le projet de loi de finances 2018, on accorde simplement 100 millions d'augmentation pour atteindre cet objectif, alors que nous savons qu'il faut 1,2 milliard par an pour atteindre cet objectif à l'horizon de 2022. Donc les beaux effets d'annonce et les jolis sourires sur la photo ne suffisent pas.
Léa Rambaud, qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette rencontre et de cette campagne de refinancement où il va y avoir des chèques dans le panier quand même de tous les pays, des aides multilatérales, bilatérales?
Effectivement, donc ce temps est vraiment l'occasion de transformer les engagements politiques en soutien financier tangible. Et nous portons une recommandation ambitieuse auprès d'Emmanuel Macron. Nous lui demandons donc de financer à la hauteur de 250 millions d'euros le partenariat mondial pour l'éducation sur 2018 à 2020 pour lui permettre de répondre à ses objectifs.
Voilà, et bien la suite au prochain numéro, c'est-à-dire en février 2018 à Dakar, et on verra si le compte est bon. Merci à vous tous, les voisins et les voisines. À lundi, reportage au